الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Donc dans ce cours, on va prendre la suite de la prosternation de réparation ou la prosternation de l'oubli. Nous avions énoncé les six traditions prophétiques essentielles donnant les différentes situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait cette prosternation ou bien en a parlé. Et nous avons dit que la prosternation de l'oubli, elle se fait dans trois cas, ou bien à cause de trois faits ou trois situations, quand il y a une diminution, ou quand on rajoute, ou quand il y a le doute. Quand il y a une diminution, au cas où il y a une diminution dans la prière, à cause d'une insouciance ou d'une erreur, cette chose que l'on a délaissée, il faut bien distinguer son statut. Est-ce qu'on a délaissé un pilier, ou bien une obligation en dehors des piliers, ou bien un acte recommandé et surérogatoire. Si nous avons délaissé un pilier dans une unité de prière par erreur ou par oubli, puis qu'on s'en souvienne avant de commencer à lire dans la prochaine unité de prière qui la suit, alors c'est obligatoire de revenir à la situation ou à l'endroit où on a oublié ce pilier, puis de continuer à la suite de la prière normalement. Et après cela, nous serons obligés de faire la prosternation de réparation à la fin de la prière, après le tashahhud final et les salutations finales, comme on va l'expliquer en détail plus tard. Mais si nous nous souvenons que nous avons oublié ce pilier-là, après avoir commencé la lecture du Coran, de l'unité de prière qui suit ce manquement, alors la rak'at dans laquelle nous avons oublié le pilier, c'est-à-dire l'unité de prière dans laquelle nous avions oublié un pilier, est annulée, est invalide. Donc on doit l'effacer, faire comme si elle n'avait pas été faite et compter à partir de ce moment-là le nombre de rak'at que nous avons faites sans compter l'unité de prière dans laquelle il manquait ce pilier. C'est-à-dire, si c'était la première unité de prière où il manquait un pilier et nous nous en souvenons que après avoir fini la fatiha de la deuxième rak'at, donc la première rak'at est annulée et la deuxième prendra la place de la première. On la comptera comme la première. Et comme nous avons fait des gestes en plus, de même, nous serons obligés de nous prosterner après la salutation finale pour réparer cette erreur. Si quelqu'un a oublié une unité de prière entière, ou plus, parmi sa prière, alors, dès qu'il s'en rappelle, il finit sa prière, puis il se prosterne, deux prosternations de réparation, après les salutations finales, comme nous avons vu auparavant dans les hadiths de Abi Huraira, et l'histoire de Dhil Yadayn, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait salué après deux unités de prière seulement, puis quand on lui en rappelait, il est revenu, il a fini sa prière et s'est prosterné deux fois après les salutations finales, ou bien dans l'histoire, dans le hadith rapporté par Imran ibn Hussein. Donc voilà pour le premier cas, le cas où nous aurions oublié un pilier parmi les piliers de la prière. Nous avons cité tous les piliers dans les cours précédents. Le deuxième cas, le cas où nous aurions oublié ou délaissé par erreur une obligation parmi les obligations de la prière, mais en dehors des piliers. Nous avons bien expliqué auparavant qu'il y avait deux sortes d'obligations dans la prière. Les obligations qui sont les piliers de la prière et les obligations qui ne sont pas des piliers de la prière. Donc cette deuxième catégorie qui sont les obligations qui ne font pas partie des piliers de la prière, comme par exemple le tashahhud du milieu de la prière. Donc, si on arrive à y retourner avant de dépasser le moment où il doit être fait, alors dans ce cas-là, il n'y aura rien. On finit la prière normalement. L'exemple de cela, si on se lève après la deuxième rak'at pour la troisième, en oubliant d'avoir fait le tashahhud du milieu de la prière. Si on n'est pas complètement debout et on s'en souvient avant d'être complètement debout pour commencer à lire, dans ce cas-là, nous reviendrons au sol pour s'asseoir et pour faire le tashahhud du milieu. Et dans ce cas-là, la prière sera valide et il n'y aura rien à faire. Dans le cas où nous nous en souviendrions après avoir dépassé son moment, c'est-à-dire en ayant commencé à faire un pilier ou en étant dans l'état d'un autre pilier après cette obligation que nous avons délaissée, dans ce cas-là, on ne revient pas à cette obligation que nous avons oubliée. Et d'ailleurs, certains savants voient que si l'on revient dans ce cas-là, notre prière est annulée. Et nous finissons la prière normalement et nous nous prosternerons deux prosternations de réparation ou de l'oubli. Et cette fois-ci, ce sera avant les salutations finales. C'est-à-dire une fois que nous avons fini le tashahhud final, avant de saluer, nous refaisons deux prosternations. Et la base de cela, c'est le hadith de Abdullah ibn Buhayna. De même qu'il est rapporté dans le hadith de Ziyad ibn Alaqa, qui a dit, Al-Mughira ibn Shu'ba a présidé la prière pour nous. Quand il a prié deux unités de prière, il s'est levé et il ne s'est pas assis. Les gens lui ont fait le tasbih. Ceux qui sont derrière lui ont fait le tasbih. Alors il leur a fait un signe pour se lever et le suivre. Et quand il a terminé sa prière, il a fait les salutations et s'est prosterné deux fois et a salué. Et il a dit, voilà comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a procédé. Dans une version, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'un de vous est complètement debout, qu'il prie et qu'il se prosterne deux prosternations de réparation. C'est-à-dire qu'il finisse sa prière et qu'il se prosterne les deux prosternations de réparation. Mais s'il ne s'est pas complètement mis debout, dans ce cas-là, qu'il s'assoit et n'aura pas de prosternation de réparation à faire. Et ce hadith, c'est un hadith sahih. Le troisième cas, c'est le cas où il délaisse quelque chose de recommandé. Dans ce cas-là, il n'est pas obligé de faire les prosternations de réparation ou de l'oubli, car ce sont des choses recommandées et non pas obligatoires. Mais nous dirons plutôt, ça lui sera seulement recommandé de faire les prosternations de l'oubli, car s'il avait l'habitude de faire une sunna et qu'il l'a délaissée par oubli ou par erreur ou par inattention ou insouciance, dans ce cas-là, ça lui est recommandé, non pas obligatoire, de se prosterner les prosternations de l'oubli. Voilà en ce qui concerne le cas où on a diminué ou bien délaissé une chose dans la prière, selon le détail que nous avons précité, si c'est un pilier ou une obligation en dehors des piliers ou quelque chose de recommandé. Par contre, si quelqu'un laisse un acte recommandé de plein gré pour alléger sa prière, dans ce cas-là, il n'a pas à faire de prosternation de l'oubli. Le deuxième cas, c'est le cas où la personne aurait rajouté dans sa prière, en rajoutant une unité de prière ou plus. Donc s'il s'en rappelle pendant qu'il est en train de rajouter, il doit obligatoirement s'asseoir et il fait le tashahhud final et les salutations, puis il se prosternera deux prosternations après les salutations finales et resaluera. Et s'il ne s'en rappelle que après avoir fait les salutations finales et avoir fini la prière, dès qu'il s'en souvient, il fera les deux prosternations de réparation, puis il fera les salutations de nouveau. Cela est appuyé par le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Donc Abdullah ibn Mas'ud a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de Dhuhr, 5 unités de prière. On lui a dit, est-ce que la prière a été rajoutée? Il a dit non. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Il a dit, tu as prié 5 prières au messager d'Allah. Alors il a fait deux prosternations après avoir fait les salutations finales. Le troisième cas, c'est le cas du doute. Si la personne a un doute, hésite, est-ce qu'il a fait 3 ou 4 rak'at par exemple? La première des choses qu'il lui est obligé de faire, c'est de réfléchir et de chercher les éléments qui pourraient le faire pencher vers l'un ou l'autre des avis. Par exemple, s'il se rappelle qu'il vient juste de faire le tashahhud du milieu, alors il se rappellera qu'il est dans la troisième rak'at. Ou bien s'il se rappelle avoir lu la Fatiha 3 fois, alors il sait s'il vient de finir par exemple la Fatiha et que c'est la troisième fois, il saura qu'il est dans la troisième rak'at, etc. Donc la première des choses qu'il lui est obligé de faire, c'est de chercher des éléments qui pourront l'aider à pencher vers l'un ou l'autre des avis. Et s'il penche, après avoir cherché et trouvé des éléments qui l'aident à pencher vers un des deux avis, il suit cet avis-là et il se prosternera après les salutations finales de prosternation, comme c'est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud précédemment. Dans le cas où, après avoir réfléchi et cherché des éléments qui pourraient aider à pencher vers l'un ou l'autre des avis, il ne trouve aucune solution, il ne sait plus du tout, il est dans le doute total, il ne sait pas s'il en est à deux ou trois. Alors dans ce cas-là, il se base sur ce dont il est sûr, c'est-à-dire le minimum. C'est-à-dire s'il a un doute entre 3 ou 4, il va à 3. S'il a un doute entre 2 ou 3, il va à 2. Bien sûr, comme nous l'avons dit, la première chose qu'il lui est obligé de faire, c'est d'abord de chercher les éléments qui pourraient l'aider à pencher vers l'un ou l'autre des avis. Si après avoir cherché, il est toujours dans le doute, il ne penche ni vers l'un ni vers l'autre, il se base sur le chiffre le plus bas et il construit sur cela. Et il se prosternera à la fin de la prière, avant le salam et non pas après, comme dans la situation précédente. Et cela, c'est basé sur le hadith de Abi Saïd que nous avons cité précédemment, et aussi le hadith de Abdurrahman ibn Auf, il est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Hakim, Al-Bayhaqi. Ce hadith, il vient renforcer le hadith qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire détailler plus un peu le hadith de Abi Saïd al-Khudri, mais ce hadith en lui-même, certains muhaddithines ont parlé sur ce hadith. Mais le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, lui, est rapporté par Muslim, Abu Daoud et Nasa'i ibn Majah, que nous avons cité dans le dars précédent, dans le cours précédent, qui est « Si l'un de vous a le doute dans sa prière, il ne sait pas combien il a prié, 3 ou 4, qu'il laisse le doute et qu'il construise sur la certitude, puis qu'il se prosterne de prosternation avant qu'il fasse les salutations finales. S'il avait prié 5, ça lui rendra ses prières paires. Et s'il avait fait une prière complète, 4, alors ce sera pour mettre la haine à Shaytan. » Donc il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention et une mise en garde en ce qui concerne cette question du doute. Il y a 3 situations dans lesquelles on ne prend pas en compte le doute. La première situation, c'est si seulement si la personne imagine qu'il y a un manque ou qu'il y a un surplus dans sa prière ou qu'il a un doute, c'est juste des imaginations ou bien des insufflations du shaitan. Donc dans ce cas-là, tant que le doute n'est pas vraiment installé et qu'on ne sait pas où on en est ou faut qu'on se pose la question, on ne prête pas attention à cela et ce doute-là ne nuit pas à la prière. On finit simplement notre prière sans se poser trop de questions. Le deuxième cas où on ne prend pas en compte le doute, c'est si une personne est touchée par le doute fréquemment. Presque à toutes les adorations qu'il fait, ou à chaque prière, ou à quasiment toutes les prières, elle se pose la question. J'ai fait plus, j'ai fait moins, il doute tout le temps. Ou c'est une personne dans sa nature qui doute beaucoup. Donc ces personnes-là doivent tout simplement compléter leur prière sans se poser de questions. Et ils n'ont ni prosternation à faire, ni se poser la question si leur prière est valide ou invalide. Allah tabarak wa ta'ala ne charge pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Et ces personnes-là ont un genre de maladie. Donc ils ne doivent pas ouvrir cette porte-là et l'élargir encore plus. Car s'ils élargissent cette porte-là, Shaitan va prendre l'emprise sur eux jusqu'au point de leur rendre l'adoration lourde et difficile et jusqu'au point où ils pourraient même la délaisser ou bien refaire la prière un nombre de fois incalculable. Le troisième cas et la troisième situation dans laquelle nous ne prenons pas en compte le doute, c'est après avoir fini l'adoration. Après avoir fini la prière, si un doute vient, est-ce que j'ai fait 4 ou 5 ? Est-ce que j'ai bien fait mes obligations complètement ou non ? On ne prête pas attention à ce doute-là. Le seul cas après avoir fini la prière où on pourrait faire des prosternations de réparation, c'est au cas où on a la certitude d'avoir manqué quelque chose parmi les obligations ou les piliers, donc on le réparera de la manière précitée, ou bien d'avoir rajouté quelque chose parmi, c'est-à-dire dans la prière, par exemple une unité de prière en plus, ou ce genre de choses, dans ce cas-là, on se prosternera. Mais si on n'a pas cette certitude-là, si c'est juste des doutes après avoir fini la prière, ce doute-là n'est pas pris en considération. Donc le seul doute qui est pris en considération, c'est le doute qui vient s'installer pendant la prière au point où on ne sait pas à quel rak'at on est et qu'il faut réfléchir et chercher des signes pour savoir si on en est à tel ou tel. Là, dans ce cas-là, on prend en considération le doute et on le traite de la manière que nous avons décrit auparavant. Maintenant, nous allons parler du statut juridique de la prosternation de réparation ou de l'oubli. Il y a en cela deux avis. L'avis de l'école juridique de Abu Hanifa, qui est aussi un avis de l'école juridique de Malikiya, et qui est l'avis le plus prépondérant chez les Hanabila, chez le madhab de l'imam Ahmad, de même que chez les Zahiriya, et c'est l'avis aussi du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, que la prosternation de l'oubli quand il y a la cause de le faire, c'est-à-dire quand c'est instauré de le faire, c'est une obligation. La preuve de cela, c'est premièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le faire à l'impératif dans toutes les traditions que nous avons précitées. Et même quand c'est seulement pour le doute, il a ordonné de le faire. La deuxième preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela constamment. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a eu une cause pour laquelle il fallait se prosterner, il l'a toujours fait, il s'est toujours prosterné. Si ce n'était pas une obligation, il l'aurait délaissé de temps en temps pour montrer que ce n'est qu'une recommandation et non pas une obligation. Le deuxième avis, c'est que c'est recommandé de faire la prosternation de réparation et non pas obligatoire. Et ça, c'est l'avis le plus répandu chez les Malikites et c'est l'avis des Shafi'iyyah, des Shafi'ites. Et c'est une version chez le Hanabila. Il s'appuie en cela sur le hadith d'Abu Saïd, qui a une chaîne de transmission bonne et acceptable, rapportée par Abu Daoud et Ibn Majah, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si l'un de vous a le doute dans sa prière, qu'il laisse le doute et qu'il se base sur la certitude. Et quand il est sûr d'avoir fini, qu'il se prosterne deux fois. Si sa prière était complète, ce qu'il a fait en plus sera compté surérogatoire, et si c'était manquant, alors ça viendra compléter sa prière. Et ce sera pour mettre la haine au shaitan. » Donc, ils ont dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme nafila. Ça viendra, c'est-à-dire s'il l'a fait en plus, ça vient, ce sera considéré comme un surplus pour lui. Donc, ils disent que ce n'est pas obligatoire. L'avis le plus juste en ce qui concerne les prosternations de réparation, c'est que c'est une obligation quand il y a la cause ou la nécessité de faire donc ces prosternations-là, comme on l'a décrit auparavant. Et ce sur quoi se sont basés pour dire que c'était recommandé et non pas obligatoire en disant que c'est une nafila, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a répondu à cela par deux choses. Que le fait que cette prosternation en plus ce soit une nafila, ça ne se trouve pas dans le Sahih Muslim, et on voit que dans l'offre de Sahih, il ne parle pas du fait que ce soit une nafila. Et si on disait que c'est une version qui est quand même véridique, qui est un surplus dans le hadith, dans cette version que l'on vient de citer, qui est un hadith Hassan, comme on dit, rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah, et qui n'est pas dans le Sahih de Muslim, donc cette parole rajoutée pour dire que c'est une nafila, ça ne voudrait pas dire que les deux prosternations sont surérogatoires. Ça veut dire seulement que l'ordre lui est donné de se prosterner, même s'il a un doute. Et si sa prière était complète, alors les prosternations qu'il aurait fait en plus, ça lui serait compté comme prière surérogatoire. Donc il n'y a pas une preuve en cela pour dire que les prosternations de l'oubli ou de la réparation n'est pas obligatoire et est une recommandation. Mais le plus juste, et comme ça a été dit dans tous les textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire et lui-même ne l'a jamais délaissé. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est quand est-ce qu'on se prosterne les prosternations de l'oubli? On a donné déjà quelques éléments auparavant, mais là on va citer les différents avis des savants. Et il y a en cela 9 avis, et à vrai dire il y en a un 10e qu'on citera à la fin, Inch'Allah, qui pourra faire un peu réunir entre tous ces avis-là. Le premier avis, c'est que les prosternations de la réparation sont toujours avant les salutations finales. Et ceci est l'avis de Abu Huraira, et de Makhoul, et Zuhri, et Saïd ibn Musayyib, et Rabi'at al-Ra'i, wal-Awza'i, wal-Layth ibn Sa'd, et c'est le madhhab de l'imam Shafi'i fil Jadid, c'est-à-dire dans son nouvel avis. Comme on sait, l'imam Shafi'i a des avis anciens et des nouveaux avis. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est que les prosternations de l'oubli sont toujours après le salam. Et ça, c'est l'avis de Sa'd ibn Abi Waqqas, et de Abdullah ibn Mas'ud, et de Anas ibn Malik, et ibn Zubayr, et Abdullah ibn Abbas. Et ça a été rapporté aussi par Ali, Ammar ibn Yasir, al-Hassan al-Basri, al-Nakha'i, al-Thawri. Et ça, c'est l'avis de Abu Hanifa et ceux qui l'ont suivi parmi ses compagnons. Le troisième avis, c'est qu'il se prosterne après la salutation finale s'il a rajouté, et avant la salutation finale s'il a diminué. C'est-à-dire s'il a un manque parmi ceux qui peut se rattraper par la prosternation de l'oubli ou de la réparation, il se prosterna avant la salutation finale. Si par contre, il a rajouté des choses en plus, comme une rak'at en plus, ou pas mal de gestes significatifs en plus, alors dans ce cas-là, il se prosternera après les salutations finales. Et ceci est l'avis de Malik ibn Anas et de Muzani et de Abi Thawr, et c'est l'avis de Shafi'i fil Qadim. Le quatrième avis, c'est qu'on utilise chaque hadith comme il a été révélé. Et toutes les situations dans lesquelles il n'y a pas de hadith, on se prosternera avant salam. C'est-à-dire tous les hadiths qui ont été révélés dans des cas précis, on copiera le hadith mot à mot, c'est-à-dire dans le même cas précis. Et on ne fera pas d'analogie sur d'autres cas qui leur ressemblent, mais c'est-à-dire en dehors des cas cités dans le hadith, on se prosternera toujours avant le salam. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal et ibn Abi Khaythama, et c'est l'avis aussi, le choix de ibn al-Munzir. Le cinquième avis, il est proche du quatrième avis, c'est qu'on pratique chaque hadith qui a été révélé, donc chaque situation qui nous arrivera qui est une situation exactement semblable au hadith révélé, on pratiquera de la même manière que le hadith l'a révélé. Et si il y a une diminution dans la prière, on fait avant salam pour le reste, et s'il y a un rajout dans la prière, on fera après salam, et ça c'est pour le reste. Toutes les autres situations dans lesquelles il n'y a pas de hadith qui est révélé. Donc en fait, comme on voit toutes ces situations-là, il ne différencie pas entre le moment où il y a un doute, des moments de rajout et de diminution, comme on l'a cité au préalable, et comme on va le citer à la fin, Inch'Allah. Et ça, cet avis qu'on vient de citer, le cinquième avis, c'est l'avis de Ishaq ibn Rahawai. Le sixième avis, c'est le même avis que le cinquième, sauf que sur les situations dans lesquelles il n'y a pas de hadith qui est révélé exactement comme la situation dans laquelle on vit, enfin dans le que l'on a pratiqué, on a le choix. Ou on se prosterne avant, ou on se prosterne après. Et ça, c'est l'avis de Shawkani, rahimahullah. Le septième avis, c'est que si on construit sur le minimum, on se prosterne avant salam, et si on cherche la vérité et on penche vers un avis, on se prosterne après le salam, et ça c'est le madhhab de Ibn Hibban. Le huitième avis, c'est qu'il a le choix de se prosterner ou avant ou après le salam, dans toutes les situations. L'important c'est qu'il se prosterne quand il a fait une erreur. Et ça c'est l'avis qui aurait été rapporté, un des avis de Ali Ibn Abi Talib, et de Shafi'i, et c'est l'avis de l'imam al-Tabari. Le neuvième avis, c'est qu'il se prosterne après le salam, sauf dans deux cas dans lesquels il a le choix. Le premier cas, c'est quand il se lève et qu'il ne s'est pas assis pour le tashahhud du milieu. Là, il a le choix, ou il se prosterne ou avant ou après le salam. Et le deuxième cas, c'est qu'il ne sait pas s'il a prié 3 rak'at ou 4 rak'at, alors il se bâtira sur le plus petit chiffre et il aura le choix de se prosterner ou avant le salam ou après le salam. Il fait comme il veut. Donc cet avis-là, le neuvième avis, comme on a dit, il se prosternera toujours après le salam, sauf dans deux cas où il a le choix de se prosterner avant ou après. S'il se levait du tashahhud du milieu sans le faire, et s'il ne sait pas s'il en est à 2 ou à 3 rak'at, il construit sur le plus bas, puis il a le choix de se prosterner ou avant ou après le salam. Ça, c'est l'avis de Ibn Hazm et de Ahl al-Zahir. Vous avez vu, il y a plusieurs avis, vous risquez de vous y perdre. Je les ai cités pour que vous ayez connaissance de tous ces avis, mais je vous demanderai de maintenant plier tout ça et d'écouter ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Inch'Allah, Wallahu A'lam, ce que je vais essayer de vous citer maintenant, c'est l'avis le plus juste, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Et d'autres grands ulama qui l'ont suivi, min al-muhaqqiqin, parmi les savants qui ont vérifié et qui ont voulu éclaircir tous ces textes et utiliser tous les textes comme il faut, parmi eux, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dans la risala que je vous ai citée auparavant, Sujud al-Sahw, la prosternation de réparation, qui existe aussi en français, je vous conseille d'ailleurs fortement de la lire. Donc, le plus juste, dans lequel on voit qu'on peut réunir tous les hadiths qui ont été cités auparavant, et dans laquelle il y a une logique qui va dans le même sens que les hadiths, c'est de différencier déjà trois sortes de situations. Le surplus, quand on a rajouté quelque chose, ça c'est un cas à lui tout seul. La diminution, quand on a oublié une obligation de la prière qui n'est pas un pilier. Ou bien une sunna qu'on fait régulièrement, qu'on a envie de se prosterner pour la rattraper. Comme on a dit, ce n'est pas obligatoire dans ce cas-là. Et la troisième situation, c'est le doute. Et le doute, il a deux cas. Ou bien un doute complet. On ne sait pas du tout, dans ce cas-là, on se bâtira sur la certitude, c'est-à-dire sur le plus bas, et là on se prosternera deux prosternations avant le salam, ou bien un doute dans lequel, après avoir réfléchi, on penche vers un avis, et on pense que c'est cet avis qui est juste. Dans ce cas, on choisira l'avis vers lequel on pense qu'il faut aller, et on se prosternera après le salam. Cet avis-là, choisi par l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, de même qu'il a dit que c'était une des versions de l'imam Ahmed Ibn Hanbal, et le madhhab de l'imam Malik, il est très proche de ça. Pour Ziyad wa Nuqsan, pour le surplus et pour la diminution, c'est le même avis. Mais il y a une différence pour le chèque. Pour l'imam Malik, quand il y a un doute, toujours on se prosternera après le salam. Alors qu'on va voir dans qu'on nous, on sépare, on détaille entre deux sortes de doutes. Le doute complet et le doute où après réflexion, on penche vers un avis. Donc pourquoi on a choisi cet avis? Premièrement, dans la diminution, comme le fait de délaisser le premier tashahhud, cette prière, elle a besoin d'un complément, d'être réparée. Alors cette réparation, elle sera avant salam pour compléter le manque qu'il y a dans la prière. Car le fait de passer le salam, les salutations finales, c'est ça qui nous sort de la prière. Donc quand il y a une diminution dans la prière, on ne peut pas la laisser comme ça, manquante. Il faut combler ce manque, puis sortir de la prière avec salam. Donc voilà pourquoi quand il y a un manque, le sujoud sera toujours avant le salam. Mais si c'est pour un rajout, comme le fait de rajouter une raka'a, et on ne peut pas dans ce cas-là, dans la même prière, rajouter deux fois. Rajouter la raka'a, plus on rajoute deux sujouds dans la même prière. Alors c'est pour ça que le sujoud, on le fera après le salam. Pourquoi? Pour mettre la haine au shaitan du fait qu'il nous ait fait douter. On s'est trompé à cause de lui. Donc les deux sujouds, on les fera après le salam. Et c'est pour ça que donc les deux soujouds, on les fera après le salam et non pas avant le salam. Et ces deux soujouds-là, ce sera considéré comme une prière seule pour rattraper justement ce manque. Le rajout qu'on a fait dans notre prière, on les rattrapera avec deux soujouds après le salam. De même, quand on a le doute et qu'on cherche après réflexion, on penche vers un avis, la prière est complète. Donc c'est pour ça qu'on se prosternera après le salam, non pas pour rattraper un manque qui est dans la prière, mais de même pour mettre la haine au shaitan. Donc à chaque fois que la cause du sujoud, c'est mettre la haine au shaitan à cause des erreurs qu'on a faites, ce sera après le salam. Et à chaque fois que la cause du sujoud, c'est pour compléter un manque qu'il aurait pu avoir dans la prière ou qu'il y a eu dans la prière, ce sera avant le salam. Et c'est de là, quand on étudie tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les situations qui sont arrivées, on en tire ces règles-là clairement. Comme on a cité auparavant tous les hadiths qui parlent de ça, ou la majorité de ces hadiths-là. De même que celui qui passe les salutations finales alors qu'il lui reste de la prière à faire, comme le cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait fait que deux rak'at au lieu de quatre, puis qu'il l'a fini. Donc, il a fini sa prière complètement. Et il y a des rajouts dans sa prière. Ces rajouts, c'est quoi? C'est tous les gestes qu'il a fait en plus. Les salutations qu'il a fait au milieu en pensant que c'était les salutations finales. Quand il a été s'asseoir sur le poteau, quand Zuliedain est venu le voir, etc. Donc, le sujoud, dans ce cas-là, est aussi après le salam. Pourquoi? Pour mettre la haine à Shaytan et pour le rabaisser du fait qu'il nous ait poussé à se tromper dans notre prière. Et dans le cas où on a un doute et après réflexion, on arrive à pencher envers aucun avis, donc la prière sera ou de 4 ou de 5 rak'at, car on ira au plus bas. Donc, si on a prié 5, les deux soujouds qu'on fera avant salam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, yufshafi'ani lahu salata, ça rendra la prière paire au lieu d'être impaire. Comme si on avait prié 6 au lieu de 5. Et tout ça peut se faire qu'avant salam pour que la prière soit paire et non pas un père. Donc cet avis-là, pourquoi c'est l'avis le plus juste? C'est l'avis sur lequel tous les hadiths sont utilisés. De même qu'on utilise le qiyas au sahih, l'analogie juste, qui donne une logique claire de la manière de réparer la prière. Ceci est prouvé par le Coran, la sunna et l'ijma' que l'analogie juste est une chose sur laquelle on peut se baser dans le cas où il n'y a pas des textes clairs, mais des textes qui vont dans le même sens. Donc pour résumer, si on oublie une obligation de la prière qui n'est pas un pilier, on se prosternera deux prosternations avant la salutation finale. Si on rajoute une rak'at ou des gestes en plus, une salutation en plus sans avoir fait exprès, ou etc. en croyant avoir fini, on se prosternera deux prosternations après les salutations finales. Si on a un doute, ça se divise en deux. Il y a le doute complet, dans lequel, même après avoir cherché et réfléchi, on ne sait pas du tout où on en est. Dans ce cas-là, on se basera et on bâtira sur le chiffre le plus bas, c'est-à-dire si on a le doute entre 3 et 4, on se dira qu'on en est à 3. Et les deux prosternations se feront avant le salam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, que si on avait fait un père, ça nous rendra notre prière père. De même que si on a un doute et qu'après réflexion, on penche vers un avis, on pense que le bon avis, c'est par exemple 4 rak'at, on va vers l'avis vers lequel on penche et on finira la prière avec des salutations finales et on se prosternera après les salutations finales de deux prosternations après les salutations finales pour mettre la haine au shaitan à cause des erreurs qu'il nous a fait faire. Maintenant, la question qu'on se pose, si la personne a oublié de faire les sujouds sahou ou bien qu'il y a eu une longue coupure entre le moment où il a... Et en plus, il y a eu une longue coupure entre le moment où il a oublié le sujoud de sahou, le sujoud de réparation, ou bien qu'il ait perdu les ablutions après avoir fini la prière et qu'il n'a pas fait les deux sujouds de réparation. Est-ce qu'il pourra venir faire des sujouds de réparation plus tard, ou bien il faudra qu'il recommence la prière depuis le début? Donc le premier cas, s'il y a eu un long moment et qu'il n'a pas perdu les ablutions, il y a deux avis chez les savants. Le premier avis, c'est qu'il recommence sa prière depuis le début. C'est l'avis du madhab, de l'école juridique Malikiya et Abu Hanifa Shafi'i et Ahmed, de leur école juridique. C'est-à-dire, ça peut être l'avis d'autres que eux directement, mais de leurs écoles et de leurs élèves et leurs sous-élèves, etc. Car la salat, ils ont dit, c'est un acte complet qui ne peut pas se diviser. Donc on ne peut pas construire une partie de la salat sur une autre si la coupure est trop longue, dans le même cas que si quelqu'un avait perdu les ablutions en plein milieu de la prière. Il ne peut pas construire dessus. Il faudra qu'il recommence sa prière depuis le début. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est qu'il a le droit de se prosterner tant qu'il n'a pas perdu les ablutions. Le deuxième avis, c'est l'avis propre de l'imam Malik, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i lui-même, et c'est l'avis de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ou Layth ibn Sa'd, ou Al-Awza'i, et ibn Hazm ibn Taymiyyah. Sauf que Ibn Taymiyyah, il a dit spécialement pour celui qui est après salam, pas celui qui est avant le salam. Avant le salam, pour lui, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Et ils ont dit, la longueur du temps, on ne peut pas la déterminer exactement. Alors que le prophète Sarasam avait passé le salut par oubli, après deux rak'at, et il a parlé, et ils ont discuté, et il est sorti de la mosquée, et il est rentré chez lui, puis il a su, puis il est ressorti, puis il a complété la prière, et il s'est prosterné, les prosternations de l'oubli après ça. De même qu'on lui a ordonné de finir la prière, et de se prosterner, c'est obligation, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié quelque chose de sa prière, ou qui s'est endormi, son expiation, c'est de la prier dès qu'il s'en rappelle. Donc là, c'est pareil, c'est une partie de la prière qu'il a oubliée, donc dès qu'il s'en rappelle, il le fait. Et cet avis est bâti sur des bases solides, mais celui qui veut la sécurité dans sa religion, il évite de s'élargir trop dans les facilités. Et même s'il a des bases solides, la sécurité, c'est que si la longueur du temps est trop longue entre le moment d'avoir fini la prière et les deux soujouds, c'est-à-dire si on avait oublié de faire les soujouds, on recommencera la prière entièrement. Mais s'il a perdu les ablutions après avoir passé les salutations, alors sa prière est invalide. S'il avait oublié le soujoud après salam pour le rajout, dans ce cas-là, même s'il va refaire les ablutions et il revient et fait deux soujouds, ce sera valable. Car, comme on a expliqué tout à l'heure, ces deux prosternations, c'est pour mettre la haine au shaitan. Donc, ce n'est pas dans la prière à proprement dit. Comme a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Mais, Si par contre les deux sujouds qu'il a oubliés, ce sont les deux sujouds avant le salam, là, il devra recommencer la prière depuis le début. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.